8h23 à Paris, voici la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, Emmanuel Macron écrit aux Français.
Deux jours, enfermé dans son bureau de l'Élysée et prière de ne pas déranger, s'exclame le Parisien. Il travaille sa lettre, peaufine le moindre détail, chaque mot compte, explique en plein cœur du week-end un proche d'Emmanuel Macron. Ce dimanche soir, le chef de l'État a donc fini par envoyer sa lettre aux Français, aux rédactions. Une lettre bien évidemment publiée par presque tous les quotidiens ce matin, 2335 mots précisément, pour justifier son projet présidentiel, réaffirmer sa capacité à réformer et inviter chacun à prendre la parole. En effet, poursuit le Parisien, empêtré depuis des semaines dans la crise des gilets jaunes, le président entend reprendre la main en s'adressant donc directement aux Français par cette missive et il veut donner les contours du grand débat national qu'il lance demain, mardi et pour deux mois.
Alors, fiscalité, institution, transition écologique, dans sa lettre aux Français, le chef de l'État pose une trentaine de questions et tente de cadrer la consultation nationale qui s'ouvre donc demain. Une démarche suffisante pour sortir de la crise, Libération s'interroge.
Périlleux, répond le journal, périlleux. Avec cette adresse aux Français, le chef de l'État est en fait candidat à sauver les 3 ans qui lui restent à passer à l'Élysée. L'humilité du style, la simplicité du vocabulaire, le ton direct et concret des questions qu'il suggère d'aborder d'ici la mi-mars en disent long sur l'urgence pour Emmanuel Macron à renouer avec les Français. L'arrogant Jupiter tente avec ce texte, poursuit Libé, de se mettre à hauteur de rond-point, moins vertical, plus horizontal. La parole est donc libre, mais en même temps, pas trop. L'exercice est d'autant plus périlleux que l'humeur du pays reste plus que grincheuse. Face à des mots M-A-U-X brûlants, les mots M-O-T-S du président sont-ils pertinents ? S'interroge pour sa part le Figaro. Il serait naïf de croire que ce débat réglera à lui seul les problèmes, mais relève le quotidien de droite, le mal français n'est pas d'être en désaccord sur les idées ou sur les solutions, mais de ne pas donner le même sens aux mots, de ne pas croire à la bonne foi de qui pense autrement que soi, de ne pas reconnaître à l'autre le droit à la parole. Cette lettre présidentielle fait le pari du débat rationnel. À l'heure des réseaux sociaux, où le seul registre autorisé est celui de l'indignation, la rationalité est-elle encore possible ? S'interroge le Figaro. Le climat national est tellement éruptif que ce simple pari du dialogue n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas une raison, conclut le journal, pour ne pas le tenter.
Comment passer des colères aux solutions ? S'interroge Lacroix en écho.
Le chef de l'État s'appuie certes sur toute la légitimité d'un pouvoir élu, sur la force que lui donne une majorité écrasante à l'Assemblée et sur le soutien de tous ceux qui en France refusent le désordre et sur la conviction partagée que son ambition réformatrice est la bonne, mais estime le quotidien catholique, il lui manque dans ce contexte précis, à cause de ses errements passés, la crédibilité nécessaire pour convaincre qu'il va vraiment lutter contre les fractures sociales et territoriales en France. D'où le fort scepticisme que sa lettre n'éteindra sans doute pas. La charge de la preuve appartient maintenant à l'exécutif. Par la qualité de son écoute, par des engagements dans la prise en compte de ce qui va s'exprimer, conclut Lacroix, Emmanuel Macron peut encore parvenir à sortir son mandat de l'étau, de la puissante contestation et des lourdes contraintes budgétaires pour transformer enfin les colères en solutions.
Eh bien non, estime pour sa part l'Humanité, qui a choisi de ne pas publier la lettre d'Emmanuel Macron.
Cette lettre ne peut être reçue que comme une provocation, s'exclame l'UMA. Pas un mot sur les salaires, pas un mot sur le pouvoir d'achat, mais l'affirmation qu'il ne rétablira pas l'impôt sur la fortune, l'ISF, comble de l'affront, il invite les citoyens à choisir les services publics qu'il faudrait supprimer en échange d'une baisse d'impôts. À croire que l'exécutif n'a toujours pas compris l'ampleur de la révolte, une fronde des pauvres contre les riches, de gens contraints à toute une vie d'efforts contre ceux qui pillent le produit de leur travail. En tout cas, estime la montagne, le président joue gros, il devra en effet donner un débouché politique à la consultation pour que les Français qui ont allumé les bras zéros des ronds-points constatent un changement. C'est à l'aune de cette sortie que sera jugée la réussite ou bien constatée l'échec du grand débat et dont dépend la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron.
À la une également, en marge des manifestations des gilets jaunes, les agressions de journalistes se multiplient.
La détestation des médias, ingrédient majeur de la colère des gilets jaunes depuis 2 mois, ne faiblit pas en effet, pointe Libération. Elle semble même se renforcer. Jusqu'où s'alarme le journal. Samedi, une équipe de LCI, la chaîne d'information en continu du groupe TF1, a peut-être échappé à un drame à Rouen après avoir essuyé des huées et des insultes. Elle a été attaquée physiquement par plusieurs manifestants. L'un des 2 agents de sécurité qui accompagnait les journalistes de la télévision a été violemment frappé au sol, exfiltré par des gilets jaunes qui s'étaient interposés. Il a eu le nez fracturé.
La critique des médias est aussi vieille que la presse elle-même, rappelle pour sa part le Figaro.
Oui, peuple ou bien élite ont toujours eu le goût de critiquer les journalistes, vendus pour les uns, superficiels et approximatifs pour les autres. Ce qui, dans la crise des gilets jaunes, est saisissant, relève Le Figaro, est que ces deux critiques fusionnent et s'appliquent à un seul et même objet. En effet, les gilets jaunes accusent les médias d'être au service du gouvernement, alors que les macronistes se désolent que ces mêmes médias laissent table ouverte aux manifestants. Vendredi dernier, enfin, dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde, Vincent Lanier, secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, affirmait « Cette haine ne vient pas de nulle part ». Elle est le résultat des écarts verbaux d'une bonne partie du personnel politique qui est allé beaucoup trop loin ces derniers mois dans le média bashing, dans une sorte de trumpisation du débat public, à l'image de certains élus de la République ou de certaines personnalités politiques, pas tous adeptes fervents de nos principes démocratiques, qui continuent à souffler sur les braises, dénonce-t-il, à nier ou encore à justifier les violences actuelles.
La revue de presse signée Frédéric Couteau à retrouver sur RFI.fr.